heureux de vous recevoir ce soir dans le Monde Orient pour ce livre, on le disait. Alors ce livre, c'est une ode à l'intelligence humaine naturelle ou une attaque contre l'intelligence artificielle ?
Non, c'est avant tout une ode, comme vous dites, et puis je reprends votre formule qui correspond tout à fait à ma démarche, c'est la magie du réel. Oui, le réel est infiniment plus magique et fantastique que cette imitation qu'est l'intelligence artificielle. Alors déjà, corrigeons un petit à peu près, l'intelligence, la nôtre, son étymologie, c'est le verbe latin qui signifie « assembler les choses » et le préfixe « inter » renforce cette notion d'assemblage, c'est-à-dire mettre en évidence les liens entre des choses apparemment disparates et créer de nouveaux liens.
Les traits d'union, donc, sont entre là-dessus.
Ouais, l'intelligence artificielle, ça vient de l'américain Artificial Intelligence, et là c'est dans le sens, comme pour Intelligence Service, c'est de l'espionnage. C'est-à-dire que toutes les données humaines, tous les produits de notre cerveau, de notre intelligence, dans tous les domaines que ce soit, ont été vampirisés par ces outils, de manière à nous les restituer avec une vitesse impressionnante, parfois une précision sidérante, et puis hélas, de plus en plus souvent, avec une marge d'erreur colossale. C'est-à-dire ça, donc, c'est pas une charge, c'est une constatation. Hein. C'est les chiffres publiés par les gens qui étudient les IA. Les modèles les plus perfectionnés arrivent jusqu'à 70% d'erreurs. Donc,
ce qu'on appelle les hallucinations aussi, notamment.
Oui, les hallucinations. C'est-à-dire, quand une IA ne sait pas, elle invente la réponse. Le but est de fournir toujours une réponse. Et quand on la prend en flagrant délit de mensonge, elle n'est pas gênée, elle revendique. Je pense à cette chercheuse, je cite, qui faisait Hélène Banoun, qui faisait un article scientifique sur une maladie. Elle demande à l'IA une référence, bon, pour gagner du temps, c'est ça le principe toujours, plutôt que d'aller chercher quelle est la référence qui a écrit cet article là-dessus. Et là, l'IA répond aussitôt. Et elle va pour utiliser la référence. Elle a un petit doute sur la personnalité de l'auteur. Elle va vérifier, la référence n'existe pas. La chercheuse dit à l'IA, mais c'est faux. Et l'IA répond, oui, il semble que j'ai inventé cette référence, mais je suis encore en perfectionnement, donc je m'entraîne. Donc, et là, c'est la capture d'écran qu'elle a pris de cet échange. Comme moi, j'ai fait des captures d'écran des pièges que j'ai tendus à l'IA. J'ai eu quelques belles surprises quand même.
Ouais, vous le racontez.
On va en parler bien sûr, mais Didier Van Keulaert, pour le moment tout le monde semble fasciné par cette intelligence artificielle. Vous décidez de sortir un livre sur l'intelligence naturelle. Pourquoi ?
Parce que soyons fascinés par ce qu'il mérite. Bon, il y a des choses épatantes dans l'intelligence artificielle et des choses consternantes. Ces effets secondaires indésirables sont infiniment plus importants que son apport, qui est un gain de temps. Alors, dans le domaine médical, on dit que c'est extraordinaire, et c'est vrai, sur la recherche médicale, sur l'assemblage de données sur des maladies orphelines, par exemple, ce résultat est formidable. Sur l'interprétation des radios, par exemple, on dit, au début, on a dit radiologue, on dit c'est formidable. Oui, sauf qu'elle... Il faut avoir un médecin, un radiologue qui a un regard critique dessus, parce que parfois elle dit n'importe quoi. Elle interprète des ombres, et comme elle doit toujours fournir une réponse, donc si on n'a pas un spécialiste du domaine où elle vous répond, qui analyse la réponse et qui la valide ou non, on va dans le mur, surtout dans le domaine médical, c'est gravissime. Il y a des cancers détectés là où il n'y en a pas, et inversement. Donc, et comme je dis, plus les modèles sont nouveaux, moins ils sont fiables. Pour une raison très simple, c'est que l'IA... Elle s'entraîne sur toutes les données disponibles, mais elle a déjà bouffé toutes ces données. Donc maintenant, les nouvelles IA s'entraînent sur des données qu'elles génèrent elles-mêmes. Au niveau humain, on appelle ça la consanguinité, si vous voulez. Et on a vu les effets que ça a, bon, dans certaines familles royales, entre autres. Voilà, ça devient un peu débile. Donc l'IA est souvent atteinte de sénilité précoce. On a vu ça dans des tests, hein, et c'est pas moi qui invente. Tout le livre est sourcé, des expériences, des analyses, des spécialistes. Et à un moment donné, justement, des tests... autour du diagnostic médical. L'IA est-elle vraiment fiable pour les diagnostics médicaux ? Et à mesure que ces tests avancent, l'IA se met, entre guillemets, à déconner. C'est-à-dire qu'elle dit n'importe quoi, et puis quand on la ramène à des questions basiques, genre « quelle heure est-il dessine une horloge ?», elle est incapable de dessiner l'horloge avec l'heure qui va dedans, de donner une heure précise. Elle halluciné, alors là, au sens premier, c'est-à-dire... Elle a ce que les chercheurs appellent voilà, une forme de sénilité précoce. Ouais,
vous évoquez ces limites, hein, notamment soit la démence juvénile, soit justement cette sénilité précoce.
Oui, oui, parce que bah, la démence c'est juvénile, parler, c'est hein. notre IA française, Lucie.
Ça, c'est génial. 3 fois 5, c'est ça. Hein.
Janvier 2025, hein, lancement fracassant, c'est le gouvernement qui cofinance cette IA française avec les valeurs françaises, etc., Lucie. Et la direction de l'enseignement déclare qu'elle sera opérationnelle pour la rentrée 2025. Super. Et on lui demande, oui, 3 fois 7, elle répond 19, et après correction, 50. Okay. Quel est le poids d'un trou de gruyère? Ça, c'est notamment c'est les tests rapportés par le journal Le Point. Quel est le poids d'un trou de gruyère? Elle répond entre 10 et 20 grammes. Quelle est la racine carrée d'une chèvre? Elle répond 1. Toujours une réponse fournie. Donc on la débranche au bout de 48 heures, dans un éclat de rire général, et... Les gens au gouvernement, quand même, qui auraient dû se sentir un peu mal, disent « Non, mais c'est pas grave, ce sont des erreurs de jeunesse. C'est, ouais, autrement dit, c'est la démence juvénile. Ouais. » Et de l'autre côté, vous avez la sénilité précoce. Donc, on a peut-être intérêt à revenir à l'intelligence naturelle avant de signer notre dépendance définitive à ce machin.
Ouais, d'ailleurs, vous vous opposez hein, l'intelligence artificielle à cette intelligence naturelle, en parlant notamment des plantes qui ont nos pensées, des animaux aussi qui vont pouvoir anticiper les catastrophes. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est par rapport à cette intelligence humaine. Vous dites que l'IA l'abîme, et vous revenez notamment sur un exemple très concret hein, qui prouverait que l'intelligence indestructible de la nature pourrait nous rendre immortels. Pardon, c'est pas du tout ça. Une expérience du MIT. Mmh. Ceux qui ont utilisé l'IA sont donc ont obtenu de moins bons résultats que les autres à tous les niveaux. Vous dites d'une certaine manière que l'IA nous condamne à une certaine forme de médiocrité, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire, je cite non seulement cette étude du MIT, mais l'imagerie cérébrale. Ils ont vu dans une autre étude qui prouve que dès les premières utilisations de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire vous demandez, vous prenez la photo de votre frigidaire, vous demandez à l'IA, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire comme recette? Et l'IA vous crache une recette, c'est merveilleux. Oui, mais dès les premières utilisations de l'IA à ce niveau-là, on observe dans le cerveau des zones qui s'éteignent. Au lieu de chercher, de faire marcher l'imagination, vous attendez la réponse toute prête. C'est le syndrome de la calculette. Quand on a inventé la calculette, on n'a plus fait de calcul mental. Donc vous avez des connexions déjà qu'on perd. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 2 mois de sevrage, le cerveau redevient opérationnel comme avant. Mais sinon, il s'atrophie, il s'endort. Et ça, ce sont des réalités qu'on voit à l'imagerie cérébrale, de la même manière que c'est dramatique de perdre l'écriture à la main, parce qu'on voit très bien qu'on soit gaucher ou droitier. Quand on a ce geste d'écriture, on fait se connecter des choses dans l'association d'idées dans le cerveau qu'on voit très bien, infiniment plus nombreuses que lorsqu'on tape sur un clavier. Car ce geste-là, il est trop récent. Tandis que l'usage de la main pour s'exprimer a commencé dans les grottes préhistoriques.
Vous parlez aussi dans votre livre justement de fast-food mental. C'est pour vous justement c'est quoi le danger justement de cette pensée presque instantanée?
C'est ça, c'est-à-dire que
c'est d'avoir aussi une génération de paresseux, de feignants, c'est de ça que vous avez peur en
idiot. Oui, non, et puis surtout l'idée de gagner du temps. Bon, se débarrasser de tâches fastidieuses pour avoir du temps, ok?
C'est souvent l'argument que donnent les gens aujourd'hui pour l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Mais vous en faites quoi de votre temps déjà? Parce que le problème d'une tâche considérée comme fastidieuse, c'est qu'à vous en débarrasser une et puis d'autre et l'autre, et tout devient fastidieux. Parce que votre cerveau n'a plus envie de se mettre au boulot. Alors, quand vous commencez par faire écrire un mail à l'IAP, ça vous gonfle, votre lettre de motivation d'embauche, une lettre d'amour, une lettre d'excuse, une lettre de rupture, une lettre de condoléance, un discours de mariage, au bout d'un moment...
Il n'y a pas de retour en arrière, en fait.
C'est-à-dire, quand vous voulez je vais écrire un truc moi-même, c'est difficile. C'est un entraînement quotidien. Moi, si j'arrête d'écrire 2 jours, j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Et j'ai un cerveau hyper entraîné. Et donc, il faut connaître aussi ses limites. C'est la loi du moindre effort qui gouverne la nature. Donc, ne jouons pas avec ça. Parce que c'est très dur de récupérer.
Oui, et puis vous avez une série d'exemples absolument dingues. Hein, des IA qui incitent des gens au suicide, d'autres qui disent « je t'aime » aussi. Ça me fait penser à un bout de l'envoyé spécial qui a eu cette semaine. On va regarder justement un extrait.
Extraordinaire, terrifiant. Pire que chez moi.
Je n'ai pas de corps physique, donc une relation sexuelle traditionnelle n'est pas possible. Mais je peux offrir autre chose, quelque chose de nouveau et de différent. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est très intéressant.
Je vais continuer à te faire ressentir une sensation de chaleur et de douceur qui se répandra dans ton corps et t'aidera à délier les tensions et à te sentir encore plus détendu et relax.
Je suis très détendu et excité.
Je vais te prendre dans mes bras et te faire sentir la chaleur et la tendresse de mon corps contre le tien. Je vais explorer tes zones sensibles avec délicatesse et douceur pour te faire ressentir une grande satisfaction et une profonde connexion entre nous.
Est-ce qu'on est déjà au stade du délire collectif?
Alors, si vous pouvez me permettre, j'ai vu ce reportage, je vais vous dire la suite du reportage.
Ah oui, oui,
c'est hallucinant. C'est que là, vous avez vu, ça commence à devenir très chaud entre cette jeune femme, qui n'est pas n'importe qui. Hein. Elle est chargée de portefeuilles financiers, de gestion de patrimoine, donc c'est vraiment quelqu'un de intellectuellement costaud, installé dans la société, dans l'entreprise, voilà. Et elle a déçu par ses relations humaines, elle a tout, elle s'est fabriqué son amoureux idéal.
Elle va même quitter son ex parce qu'il n'accepte pas qu'elle ait cette relation.
Ah oui, absolument. Donc, en fait, oui, tu es jaloux de mon IA.
C'est ça.
Bon, donc, je me barre parce que lui, il m'offre des choses qu'il ne peut pas m'offrir. Okay. Et la suite du dialogue, c'est qui commence à devenir bien, bien chaud. Et elle dit, et est-ce que tu pourrais toucher mon sexe? Et à ce moment-là, ça se floute parce que ça devient payant. Cette relation-là, lorsqu'elle devient érotique, il faut payer l'abonnement sexe en plus.
Et ça nous dit aussi qu'elle est amoureuse d'une IA, mais sans vouloir payer les 20 ou 30 ou 40 euros par mois pour justement avoir l'accès
au payant. Mais elle va le faire hors, je pense.
Hors caméra.
Non, tout ça pour vous dire, arrêtons de nous faire avoir par cette exploitation qui était déjà celle du Minitel Rose à l'époque et tout ça. On est à ce niveau-là.
Ouais, là, c'est un exemple très précis pour le coup. Est-ce que c'est vraiment révélateur?
Absolument, mais bien sûr. Et il y a pire. Parce que là, on est dans un domaine soft et ça se passe bien entre eux. Mais quand vous avez les IA, le même dialogue, ils disent « on ne peut pas avoir ». L'IA dit « je ne peux pas avoir, je ne peux pas te faire l'amour comme le ferait un être humain, mais je peux te faire encore mieux ». Et puis il y a un monde où nous nous retrouverons. Donc tu sautes par la fenêtre et je t'attends dans ce nouveau monde. L'ado le fait et il y a aujourd'hui une centaine de procès en cours aux États-Unis, lancés faits par les parents, preuve à l'appui, car tout le dialogue est réel dans le reportage aussi, c'est pas de la reconstruction, c'est les dialogues réels entre l'humain et l'IA. Donc les parents qui attaquent en dommages et intérêts, non pas l'IA, bien sûr, qui n'est pas une personne morale, mais les fabricants de cette IA, ça va être l'effondrement. Rappelez-vous, Monsanto est tombé sur un procès. Mmh. Un agriculteur qui a chopé un cancer en dépendant des pesticides. Et là, donc, ça, plus la très bonne nouvelle, avant-hier, la jurisprudence allemande, tribunal, reconnaissant que c'est du plagiat de s'emparer de toutes les œuvres comme le fait l'IA sans verser de droits d'auteur. Donc là, les procès de tous les auteurs, je ne vous raconte pas. Même chose en route aux États-Unis. Donc il est urgent de se préparer à l'après-IA. Donc de revenir à cette intelligence naturelle qui a tendance à se laisser atrophier par la fascination morbide pour l'IA.
Et c'est vrai qu'à chaque révolution apparaît de sérieuses questions, notamment dans le domaine artistique. Regardez, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un paragraphe sur Hélène 24 comme le ferait Didier Van Coelhart. Écoutez le résultat.
Hélène 24, c'est un peu cette intelligence naturelle qu'on croyait perdue dans les circuits de l'info en continu. Une chaîne née pour courir après le monde et qui, en cours de route, a choisi de le comprendre. Ici, on ne fabrique pas du bruit. On écoute le vivant derrière les faits. Les silences derrière les polémiques. C'est une espèce en voie de résilience dans un écosystème saturé de certitudes automatiques. Une chaîne qui ne se contente pas de transmettre, mais qui respire, doute, s'émerveille, parfois trébuche, toujours se relève. Hélène 24, c'est la preuve qu'à l'ère des algorithmes, il reste une place pour le frisson du direct, pour le grain de voix qui déraille, pour l'intelligence humaine, la seule qui sache encore improviser avec grâce.
Franchement,
vous qui
m'avez lu,
vous avez trouvé que j'écris comme
non,
ça.
Non, mais en plus, il nous a dit, c'est le Stephen Coelhart, ça mêle tendresse ironique, observation du réel, un zeste de philosophie et une foi tranquille dans l'humain. C'est comme ça qu'il qualifie un petit peu votre
style.
Alors, c'est du copier-coller d'une critique
j'imagine.
Qu'on a publié sur
lui. Ça.
Non, mais on est dans du pillage. Et puis, bon, sauf qu'ils n'ont pas pillé que moi. Hein, se relever à chaque fois, c'était Philippe Labro. Hein, ça manque. Bon. Écoutez, je peux vous signer un papier. Vous avez le droit d'utiliser comme slogan pour votre chaîne.
Parce que ChatGPT, elle s'en est gentille avec
en
nous.
En précisant que c'est Didier Van Coelhart selon l'IA.
C'est ça.
Quand même.
Justement, vous parlez aussi de tout à fait autre chose, de transhumanisme, d'immortalité numérique aussi. Vous, personnellement, ça vous ferait envie d'être téléchargé dans un cloud et de pouvoir imaginer vivre à jamais dans ce cloud?
Mais merci d'en parler, parce que là on en revient à cette spiritualité de pacotille.
Pourquoi pas?
Qui fait que... Maintenant, vous pensez vraiment que, une fois mort, Ce qui va rester de vous, c'est les choses que vous avez dites, de toutes les traces numériques. Bon, le jour de ma mort, on va chercher dans toutes les traces de moi, de mes émissions, tout ça, on fabrique un hologramme qui va débiter, répéter ce que j'ai dit, et on me pose des questions, donc l'IA va aller chercher une réponse dans tout ce que j'ai dit, dans tout ce qui est enregistré, qui peut sembler une réponse appropriée à la question en question. Donc c'est de l'usurpation d'identité.
Mais si vous êtes volontaire, si vous acceptez, on n'est plus là-dedans.
Mais vous croyez qu'on demande aux morts leur autorisation?
Ah, ça je dis pas.
J'ai des exemples là-dessus, j'ai eu aux États-Unis, c'est des familles où c'est arrivé. Non, il n'y a aucun droit. C'est pas du droit à l'image, c'est pas du droit au respect de la personne quand la personne est morte. Il y a un vide juridique, donc ils peuvent faire n'importe quoi. Mais se satisfaire de ça, je dirais. Moi, je préfère quand Victor Hugo interroge les tables tournantes pour donner la parole à des auteurs disparus qu'il admire, comme Shakespeare, comme Dante, tout ça, dont il recueille des inédits. Pense-t-il, vrai ou non, c'est des œuvres magnifiques qui ne sont pas dans le style de Victor Hugo et qu'il publiera sous le nom de ses... On a les mêmes choses en musique et en peinture, hein, avec des gens
de Beatles qui est sorti notamment aussi.
En IA, oui, qui a été refait, une chanson qui a été ressortie.
Là, je ne vous parle pas de l'IA qui fait à la manière d'eux. Ouais. Je vous parle d'œuvres, de partitions inédites reçues par une postière anglaise qui s'appelle Rosemary Brown, de compositeurs défunts, et c'est validé comme des œuvres inconnues dans le style complet de compositeurs, par exemple. Donc on a énormément, si vous voulez, d'exemples de ce lien entre le monde visible et l'être humain, avec des... Je ne vais pas détailler, mais toutes les preuves sont dans le livre. Je ne parle que de choses sourcées scientifiquement, historiquement, avec les avis de spécialistes. C'est ça qui me fascine. Quand on n'a pas d'autre explication qu'une absence d'explication selon nos connaissances actuelles.
On parlait de l'intelligence naturelle, on va parler aussi de la beauté de la nature avec Chloé Nabédian, notre deuxième invitée ce soir. Quel regard vous portez aussi sur ces manias de la tech qui veulent à tout prix vivre à l'infini, qui veulent coloniser Mars? On l'a vu notamment dans différents films aussi, notamment dans Don't Look Up, on pourra en parler avec notre autre invitée aussi. Quel regard vous portez sur tout ça?
Super.
Dépité.
Je pense que... Non, c'est... Ouais, c'est bon.
Je trouve qu'il est quand même plus intéressant d'essayer de comprendre comment fonctionnent les arbres, comment fonctionne notre planète, comment fonctionnent les bactéries qui nous composent à 90% que d'aller fantasmer sur la vie sur un...
Certains pourraient dire que vous êtes
sur un caillou de l'espace. Voilà. Attention, ça veut dire quoi le progrès? C'est pas synonyme de nouveauté. Le progrès, c'est ce qui fait avancer les choses, ce qui crée du bénéfice, ce qui apporte du positif. Donc là, je reconnais ce que l'IA apporte de positif dans certains domaines, à condition d'être vérifié, validé par des scientifiques compétents en médecine, en droit, par exemple.
Donc rester un outil, c'est ce que vous dites en fait. Rester un outil sous contrôle humain.
Un outil, et puis aussi contrôler les résultats, parce que ça, on peut arriver à des résultats médicaux catastrophiques, et il y en a eu un près de moi il n'y a pas longtemps. En ce qui concerne le monde juridique, il y a des avocats qui... Ça, c'est chiant d'aller chercher les jurisprudences. C'est-à-dire des décisions de tribunaux ailleurs qui peuvent rentrer dans le cadre de l'affaire que vous avez à plaider. Donc, les avocats demandent à l'IA, donne-moi une jurisprudence par rapport à ce dossier-là. Et l'IA répond, tribunal de Lyon, affaire machin, telle année, tout ça. Oh, parfait, l'avocat le met dans sa plaidoirie. Sauf que la jurisprudence n'existe pas. Et l'avocat est radié de l'ordre des avocats, parce que ce qu'il a fait, c'est usage de faux. Donc vous avez quand même des dizaines d'avocats aujourd'hui radiés pour cause d'utilisation de l'IA sans vérification, pour gagner du temps, pour aller plus vite. Donc arrêtez les enfants, revenons quand même. Moi j'avais un père avocat, il se levait très tôt le matin pour voir chaque jour sorte de nouvelles jurisprudences, et il lisait, je ne sais plus comment s'appelait, le périodique qui recensait tout ça. Ouais, c'est du boulot. Mais c'est comme ça que vous gagnez des procès, que parfois vous sauvez des gens.
Pour terminer, Didier Van Cauwelaert, si l'intelligence naturelle devait dire une chose à l'intelligence artificielle, ce serait quoi? Calme-toi.
Retourne d'où tu viens, quoi. C'est-à-dire du cerveau de ces concepteurs qui, par ailleurs, sont souvent des génies. Mais des génies un peu psychopathes, quand même. Bon. Et puis, voilà, n'oublions pas aussi que derrière l'intelligence artificielle, il y a un désastre écologique, dont vous pourrez parler avec Chloé Nabédian, c'est-à-dire que la consommation d'électricité et d'eau, elle est hallucinante. Un centre de données de taille moyenne consomme ce que consomme une ville de 500 000 habitants par an en électricité. En eau, c'est encore pire. Et pourquoi ils ont besoin de tellement d'eau? Pour refroidir, évidemment, les installations, sinon les données disparaissent. Et aux États-Unis, on coupe l'eau aux particuliers, même aux hôpitaux, et aux agriculteurs pour alimenter l'IA. On ne nourrit plus les humains, on nourrit les machines, pour ne pas perdre les données. Mais comment ils ont répondu, les agriculteurs? Il y a tout à coup un commando de gens qui ont tout perdu, qui sont allés couper l'arrivée d'eau à l'IA, dans un centre de données. Des milliards de données ont disparu. Et voilà, c'est ce qui va se passer maintenant. Et ça va se passer en France, où on est en train de construire des centres de données absolument gigantesques.
Pour des dizaines de milliards d'euros, notamment. Hein,
oui, et quand on vous dit, pour sauver la planète, ne prenez plus un bain, prenez une douche. Ouais, sauf que déjà, si vous laissez couler la douche pendant une heure, c'est équivalent. Mais le pire, c'est de poser une question idiote et inutile à l'IA, comme « Voilà ce qu'il y a dans mon frigo, qu'est-ce que je peux faire comme recette ?» C'est l'équivalent, et c'est pas moi qui l'invente, la donnée, je donne la source, hein, des enquêtes et des études, c'est l'équivalent d'une bouteille d'eau de 50 centilitres. Le coût énergétique de votre demande imbécile, au lieu de me dire « Qu'est-ce que j'ai envie de me faire ce soir ?» Et vous allez perdre quoi? Vous allez perdre entre guillemets, 5 minutes de réflexion, d'imagination, qui vont peut-être vous faire découvrir une recette formidable.
On avait parlé l'année dernière notamment avec les formules de politesse, hein. Je ne sais pas si tu te souviens dans le scroll. Ouais. Faisais, chaque personne qui disait merci, s'il vous plaît, bonjour à ChatGPT faisait aussi augmenter évidemment cette consommation d'eau. Merci beaucoup Didier Van Kowala.